Monstres et merveilles.
Alors, est-ce que dans le studio, ou même les auditeurs, même si, bon, bah, vous ne pouvez pas trop répondre...
Mais non, on ne peut pas les entendre.
Mais vous ne trouvez pas qu'on est parfois un peu à court pour se moquer de nos amis? Enfin, je veux dire de manière originale, quoi, quand tu as envie que l'autre en face ne sache plus quoi dire du tout. Tiens, par exemple, Léo, si je t'insulte, dis papaye, ou dis palectrion...
Je te permets pas.
Qu'est-ce que tu trouves à répondre?
Espèce de, de yipoundoulou.
Pas mal, pas mal. Eh bien, si tu arrives à retenir ce mot, hypalectrion, tu pourras te vanter d'insulter comme Aristophane, un poète et dramaturge comique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est grec. Donc c'est un peu stylé, ça, non?
C'est, franchement, c'est la classe.
Et si on vous réplique, ça veut dire quoi, hypalectrion, déjà? vous répondrez fièrement que c'est une créature hybride fantastique, mi-coque, mi-cheval.
Ah ouais.
Donc nous allons parler de l'hypalectrion. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. En effet, le coq est une bête prophylactique. Alors Léo, c'est quoi prophylaxie?
Mais j'en sais rien.
Non, je rigole, je l'ai découvert aussi. En fait, ça désigne le processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. C'est un peu...
D'accord.
Voilà, voilà. Et c'est un symbole solaire qui met les démons en fuite grâce à son chant qui résonne quand vient le jour, plutôt logique. Et le cheval, en particulier le cheval ailé, il s'agit d'un symbole funéraire et d'un guide pour les âmes des morts. Et ça s'appelle psychopompe, encore un mot, voilà.
On en apprend aujourd'hui dans Monstres et Merveilles.
Oui. Et donc pour résumer, l'apparence laide et grotesque de cette créature aurait eu pour fonction de faire rire et ainsi d'écarter le mal.
Sympa.
Sympa. Alors pourquoi une créature aussi cool est passée à la trappe de nos mémoires collectives en ce qui concerne la mythologie grecque? Contrairement à la majorité des autres monstres hybrides grecs qui sont mi-animal, mi-humain, comme centaure, sirène, minotaure, etc. Lui est entièrement animal, ce qui renforce sa monstruosité. Mais en plus, il n'a pas de chance parce qu'il ne possède ni mythe ni légende propre à lui. Donc on ne le retrouve pas forcément dans l'Odyssée, ni dans l'Iliade, ni dans les
D'accord.
autres textes. Donc voilà pourquoi... Léo, tu connaissais l'hypalectrion?
Mais pas du tout.
Et moi non plus, mais je me disais que c'était quand même intéressant de parler de la mythologie grecque dans Monstres et Merveilles une fois dans l'année, quand
Ah,
même.
Il faudrait quand même.
Donc aujourd'hui est le grand jour. Seules des représentations artistiques permettent d'avoir une idée de l'apparence de cet animal hybride. Toute sa partie antérieure est celle d'un cheval, ce qui inclut la tête, l'encolure et les deux membres antérieurs. Le corps et la partie postérieure sont celles d'un coq, donc avec les ailes, la queue et les pattes postérieures. Il devient un motif fréquent à partir de 575 jusqu'à 480 avant Jésus-Christ, où il est généralement représenté monté par un jeune cavalier désarmé. Et en 1998, on comptait environ 85 représentations artistiques de l'hypalectrion, principalement sur des poteries, des objets en bronze et des sculptures. Ce motif ne serait d'ailleurs pas forcément une création de l'Antiquité grecque. Une analyse des textes d'Aristophane suggère qu'il serait issu du Moyen-Orient. Les costumes portés par les personnages représentés sur les poteries semblent asiatiques. L'origine perse est en effet évoquée par Aristophane. Par ailleurs, le coq est un animal sacré dans la culture perse. Les avis divergent et d'autres sources indiquent toutefois que ce motif n'est pas oriental. Les animaux hybrides de Mésopotamie et de Grèce sont proches sur bien des points. D'autres sources, comme l'entrée du dictionnaire d'Hésychios d'Alexandrie, mentionnent qu'il existait trois types d'hypalectrions. Un coq géant, un vautour géant et une créature fabuleuse proche des griffons peints sur les tissus de Perse. D'ailleurs, l'hippogriffe, bête mi-cheval, mi-aigle, qu'on voit notamment dans Harry Potter 3, je crois.
Oui, c'est ça, ouais.
Le prisonnier d'Azkaban, ressemble beaucoup à l'hypalectrion, mais l'hippogriffe est évoqué pour la première fois par le poète latin Virgile dans ses éplogues au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on est à 5 siècles de différence et pas le même pays. Enfin, il n'y avait pas de pays à l'époque. Voilà, bref. Mais alors, quels sont les rôles et les symboles que renferme cette créature? On a en réalité très peu de ressources, si ce n'est... Perdrisé, qui publie une vingtaine de pages dans le numéro 6 de la revue des études anciennes en 1904, où il signale qu'une statue d'Hypalectrion pourrait avoir été sculptée pour commémorer un exploit naval. Et le personnage d'Eschyle, dans la pièce Les Grenouilles, de notre Aristophane du début, explique en effet qu'on peignait ce motif sur les galères dans l'ancien temps, ce qui pourrait indiquer que l'Hypalectrion se voyait attribuer des vertus magiques destinées à protéger les navires et pourrait avoir été associé au dieu Poséidon, qui par ailleurs règne sur la mer et les chevaux. Alors, petite parenthèse pour les fans d'astrologie. Selon l'helléniste Jean Richer, le coq, qui est pour les Grecs un oiseau persan, a été très tôt considéré comme la représentation symbolique du signe zodiacal du lion, signe solaire par excellence. L'Hypalectrion, qui associe l'aspect de l'avant-trinte de Pégase, donc cheval ailé, et la queue du coq, représente l'axe solstitial lion-verseau, et le verseau étant un signe de l'air, ce que précisent les ailes du Pégase. Cette interprétation serait corroborée par plusieurs monuments où sont figurés des Hypalectrions, donc la plaque d'Éleuthère au British Museum, une amphore à Munich, une amphore attico-corinthienne du musée universitaire de Bonn. Il y a des monnaies à Lampsaque, et c'est une ville située sur l'axe Lyon-Verseau dans le système centré sur Sardes. C'est assez compliqué, j'espère que nos fans d'astrologie comprendront mieux que moi cette information.
Il faut avoir quelques pistes.
Mais voilà. Une autre piste d'interprétation sur les sculptures représentant l'Hypalectrion, chevauchée par un jeune homme, voudrait qu'il s'agisse tout simplement d'un jouet destiné aux enfants, tout comme celle qui représente des dauphins chevauchés. Les créatures hybrides et chimériques, donc les ichthyocentaures et griffons aux côtés de l'Hypalectrion, servaient d'ornement pour les édifices dédiés aux dieux et permettaient aux artistes de montrer leur habileté tout en créant des figures propres à ravir le regard. Il semblerait que l'Hypalectrion n'ait, dans ce sens, pas d'autre fonction que celle d'être une décoration purement imaginaire et fantastique. Et donc dans la culture populaire, vous vous en doutez, l'Hypalectrion n'est que très peu mentionné. Toutefois, les comptines de Mamerlois contiennent, ou en tout cas dans la version anglaise de Mamerlois, une ritournelle parlant d'un cheval coq. Et donc ça dit, je vous lis la ritournelle, « Chevauche un cheval coq jusqu'au carrefour de Bambouri pour voir une vieille femme chevaucher un cheval blanc, des bagues à ses doigts, des cloches à ses orteils, elle aura de la musique partout où elle ira. » C'est assez mystérieux.
Assez, ouais.
Je laisse les auditeurs réfléchir sur le sens de cette ritournelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette créature nous montre que l'une des meilleures façons de vaincre nos peurs, c'est de rire et d'oser le ridicule, car on vous rappelle ici à l'antenne, le ridicule n'a jamais tué personne.